assez satisfaction. Cet été, on fait une série particulière. C'est pas une série sur un livre, sur un personnage, c'est une série sur les genres littéraires qu'on trouve dans la Bible. La semaine passée, je vous parlais que dans la boîte aux lettres, on trouvait plusieurs types de documents. Je peux trouver des publicités, je peux trouver des factures, je peux trouver des... La femme pourrait m'envoyer une lettre d'amour. Donc, il y a plusieurs types de documents, puis je lis les documents d'une manière différente. Je n'ai pas les mêmes attentes, ce n'est pas le même type d'informations que je vais avoir. Dans une publicité, il y a plein de chiffres de montants, mais ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors que dans une facture, il y a un chiffre, un montant qui m'intéresse en particulier, le montant que je vois. Cette semaine, je montre des bandes dessinées. Donc, c'est toutes des bandes dessinées, ça fait toutes partie du même genre littéraire, mais ils ont toutes leurs particularités, ils font toutes partie du même sous-groupe de bandes dessinées. Donc, ça, c'est une bande dessinée japonaise, hein, c'est pour les adolescents, ça raconte l'histoire d'un ninja. Puis ce genre de manga-là, bien, c'est toujours très fantastique, sans noir et blanc, parce que les enfants qui achètent ça, ils ont beaucoup d'argent. Puis, c'est une histoire suivie, mais il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ensuite, on a une bande dessinée anglaise, ça c'est Watchmen. C'est, vous voyez une tache de sang sur la couverture, c'est plus projet adulte. On voit qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de texte, disons. Donc ça c'est vraiment plus pour les adultes, c'est des thèmes qui sont plus lourds. Donc mon enfant de 3 ans, j'aimerais penser qu'il existe pas. Ensuite, on a une bande dessinée de Star Wars. Tiens! Oh. Bande dessinée de Star Wars, Dark Vader, c'est vraiment cool. Donc, ça, c'est plus pour les adolescents. Donc, il y a plein de couleurs, il y a plein d'actions. Puis, au début de l'histoire, ben, l'auteur, il ne prend pas 20 pages pour expliquer qui est Dark Vader. Et l'auteur présume que tout le monde connaît Dark Vader. Si tu as fait la bande dessinée, c'est parce que tu as vu Dark Vader, tu dis, c'est vraiment cool. Donc, il y a plein de bandes dessinées, il y a tout un marché de bandes dessinées de Star Wars, qui est une parmi des centaines. Donc, dans ce genre-là, ben, c'est toutes les bandes dessinées de Star Wars qui viennent même convention. Ça, c'est une bande dessinée québécoise, c'est Paul à la campagne. Ça fait partie d'une série qui vous plaît pas, là. C'est Paul à la campagne. Vous voyez que c'est en noir et blanc. Oui, mais sérieusement, c'est une bande dessinée qui a gagné beaucoup de prix. Il n'y a pas la ville, pas au camp de vacances, pas la campagne. Donc, oui, c'est le même genre. Donc, Paul, il n'y a pas de super pouvoir. Paul, il n'y a pas d'explosion. C'est vraiment très... c'est les premières expériences de Paul. Donc, son premier travail, sa première blonde, son premier deuil. Ça? Non, il n'y a pas Paul à l'église, non. c'est un autre titre. Et finalement, bon, ben, on a un bon vieux Bully Bill. Donc, ça, Bully Bill, bon, ben, vous faites ça pour les enfants. J'ai pas besoin de commencer au début de la bande dessinée. Je peux ouvrir une page au milieu, lire la page. Ah, ben oui, c'est Bully Bill. Il y a un punch humoristique à la fin. Même si je lis la dernière histoire, ben, ça change pas grand chose. Que j'ai la première, le début ou la fin, c'est toujours un peu le même genre de blague, toujours un peu... Les personnages n'évoluent pas, hein. On voit pas Wood qui est rendu à 27 ans, c'est des problèmes financiers. Il va toujours rester à 7 ans, c'est toujours le même genre de choses qui va se passer. Donc, tout ça pour montrer que les bandes dessinées, ça c'est un genre littéraire, mais on voit qu'il y a plusieurs variantes, qu'il y a plusieurs caractéristiques différentes. Ils ont fait une série cet été sur les genres littéraires, parce que dans la Bible, il y a différents genres littéraires. Puis de la même manière qu'on lit pas un Bully Bill, de la même manière qu'on lit une bande dessinée pour adultes, ben, de la même manière, on ne peut pas lire tous les livres de la Bible de la même manière. Hein, de la poésie, c'est pas la même chose qu'un texte de loi ou une prophétie, c'est pas la même chose qu'une parabole. Donc, un genre littéraire, je disais, c'est une manière de s'exprimer selon certaines conventions. Puis cet été, on va regarder plusieurs genres littéraires. On ne va pas tous les regarder. On va regarder les narratifs. Ça, grosso modo, c'est les histoires qu'on a dans la Bible. C'est un genre qui revient souvent. On voit que Dieu intervient dans l'histoire, intervient dans la vie des gens pour changer leur caractère. Donc, Benoît nous a fait une prédication sur le livre des Actes. La semaine passée, je vous ai parlé de poésie. Je vous ai parlé du livre de Lamentation de Jérémie. Donc, on a vu que un livre qui était sous une certaine forme, une forme de microstitch, on voyait qu'il y avait une structure. Il y avait aussi beaucoup de figures de style, hein, des métaphores, des comparaisons, des personnifications. Cette semaine, on va parler de la loi. Dans mon travail, tandis que je travaille avec les régimes de retraite, c'est une loi au Québec, la loi AR9.1, je crois. Donc, de temps en temps, vous allez voir dans la loi pour voir c'est quoi les dispositions de régime, qu'est-ce qui est écrit dans la loi, pour vraiment qu'on puisse faire avec. Donc là, de temps en temps, je vais voir, ça c'est la première page du site web de publication du Québec, donc c'est un recueil de toutes les lois. Donc, les lois ont un nom, ça commence par une lettre de l'alphabet, c'est le début. Il y a vraiment des lois pour tout. Puis à chaque fois, moi, je commence à voir la liste, puis je vois toujours A1, la loi sur les abeilles. Et oui, au Québec, nous avons une loi sur les abeilles. On a la loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture. On a la loi sur les accidents de travail. Donc, partant du fait qu'on a une loi sur les abeilles, on peut présumer qu'on a une loi vraiment sur tout. Vous voyez, la loi sur les abeilles. Une loi, toutes les lois ont un certain, la même force. Donc, c'est un texte qui est très formel, qui est très froid. C'est un texte qui est détaillé, hein, parce que si on chicane à propos d'une loi, ben, il faut vraiment utiliser le bon terme pour que les avocats entre eux puissent se chicaner. Donc, on voit le premier article, le ministre de l'Agriculture, des Pêchers et de l'Alimentation est chargé de l'exécution de la présente loi. Et on voit en bas de la ligne du premier article, on voit les dates de modification. Donc, on voit que cet article-là a été modifié en 64 par le décret 128. Il a été modifié en 73, en 79. On voit que le deuxième article, il a été effacé. Quand c'est effacé, ben, ils ne font pas juste effacer le numéro. Ils laissent le numéro, mais ils écrivent abrogé. Donc, ça, c'est juste un exemple pour montrer que, bon, on vit dans une société où il y a des lois. C'est un genre littéraire auquel on peut connaître. On n'est pas nécessairement habitué. C'est sûr que, comme je disais dans le cadre de mon travail, quand je lis une loi, souvent, ça me prend beaucoup de temps à lire parce que c'est pas vraiment clair. Souvent, il faut réfléchir longuement pour bien comprendre le temps. Dans la Bible aussi, on a des lois. Les lois se trouvent dans les 5 premiers livres de la Bible. Donc, c'est les 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. C'est les livres qui ont été écrits par Moïse. On a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, quand ça a été écrit par Moïse, bon, Moïse, il a vécu grosso modo environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Ça a été écrit pour le peuple d'Israël qui a sorti d'Égypte. Puis, on sait que, bon, les hommes qui ont sorti d'Égypte, en 20 ans, il y en avait à peu près 600 000. Donc, toute la population, on va dire que c'est autour de 2 millions de personnes qui faisaient partie des descendants d'Abraham qui ont sorti d'Égypte. Et en Genèse, on commence une histoire. On voit l'histoire, les origines du monde. Mais on voit aussi les origines du peuple de Dieu. Là, vous voyez en vert, j'ai écrit Abraham. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, faites-moi confiance, c'est écrit Abraham en vert. Donc, on voit comment Abraham a commencé sa vie. Dieu a appelé Abraham à aller dans le pays de Canaan, puis il lui a dit, bon, il s'est fait plein de promesses à Abraham. Hein. Tu vas avoir une grande société, il va te donner un pays. Puis Abraham a eu confiance en Dieu. Puis on voit à la fin de Genèse les événements qui ont fait en sorte que la famille des descendants d'Abraham ont été vers l'ouest, vers l'Égypte. Ça, c'est la ligne verte. Ensuite, en Exode, on fait un saut en avant. On a la famille d'Abraham, ils sont à peu près 70 personnes. Puis là, 400 ans plus tard, ils sont rendus un grand peuple dans l'Égypte, ils sont rendus esclaves. Ils sont traités de manière très dure. On voit que les Égyptiens essaient de faire un génocide en tuant les garçons mâles. Donc, Dieu envoie un libérateur pour sauver les Israélites. Les descendants d'Israël. Donc, les descendants d'Abraham vont être sauvés par Moïse. Puis, dans Exode, on voit leur sortie de pays d'Égypte. Dieu envoie plein de plein d'actes prodigieux pour libérer son peuple. Là, la ligne rouge qu'on voit, c'est le périple des Hébreux. Finalement, en Exode, ils arrivent au mont Sinaï. Hein, ils vont pas tout de suite, mettons, de l'Égypte, ils pourraient aller directement vers l'Est pour aller dans le pays promis, le pays de Canaan. Mais Dieu, non, leur dit, vous allez descendre au sud-est, vous allez descendre au mont Sinaï, vous allez voir une rencontre. entre le peuple et Dieu. Puis là, ensemble, ils vont prêter une alliance. Dieu va être le Dieu des descendants d'Abraham. Il va prendre soin d'eux. Mais en contrepartie, les Hébreux vont adorer Dieu, vont l'honorer, puis ils vont respecter ses lois. Donc, le Moïse, dans le Lévitique, on voit toute une description des lois, on voit une description du culte qui doit être rendu à Dieu, de quelle manière les sacrifices doivent être faits, de quelle manière on peut s'approcher de Dieu par le tabernacle, par la grande tente où on fait les sacrifices. On voit aussi plein de règles sur comment est-ce qu'on devrait se comporter en société. Ensuite, dans le livre de Nombre, ben là, on voit le périple du mont Sinaï jusqu'au pays de Canaan. En Nombre, on voit que les Hébreux envoient 12 espions pour aller voir dans le pays promis, bon, comment est-ce qu'on va faire notre conquête militaire. Et finalement, il y a 10 des 12 espions qui disent « Ah non, dans le pays de Canaan, leurs cités sont trop grandes, leurs guerriers sont trop puissants, on est mieux de ne pas aller là. » Donc, même si Dieu leur disait d'aller voir ce pays-là pour vous, ils n'ont pas fait confiance à Dieu, ils n'ont pas mis leur foi dans la parole de Dieu, puis Dieu leur a dit « C'est bien beau, vous voulez pas de mon pays, vous n'avez pas foi en moi, vous allez tourner 40 ans dans le désert. » Au début de Deutéronome, on lit que de Kadesh Barnéa jusqu'au pays de Canaan, ça prend 11 jours de marche. Donc, sans 11 jours de marche, pendant 40 ans, les gens y ont tourné dans le désert. Donc, alors qu'ils disent, ils auraient pu couvrir ça en 2 semaines de marche. Et finalement, bon, les descendants des Hébreux, les descendants des gens qui ont refusé l'offre de Dieu, ben, ce sont eux qui ont pu entrer dans le pays promis en Canaan. Dans le livre de Deutéronome, ben là, Moïse refait un rappel de l'alliance. Il explique aux enfants des Hébreux qui ont sorti d'Égypte, c'est quoi l'alliance qui a été traitée avec Dieu, c'est quoi les règles, c'est quoi les lois qu'on doit respecter. Donc, regardez quelques exemples des lois qu'on trouve dans les 5 premiers livres de la Bible. Donc, la première loi qu'on rencontre, c'est Dieu qui la donne à Adam. C'est pas, tantôt je parlais que le contexte, c'est que Moïse recevait des lois au mont Sinaï. C'est un contexte différent où c'est Adam, le premier homme créé par Dieu, qui reçoit le commandement de Dieu. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du fruit, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, on voit que c'est un ordre, une loi de Dieu qui est d'ordre alimentaire. Hein, il ne faut pas qu'il mange du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et on voit qu'il y a une conséquence très, très claire. Hein. Si jamais Adam mange du fruit, il va mourir. Le deuxième commandement qu'on peut voir, c'est après le déluge, Noé et ses fils reçoivent un commandement de Dieu. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang en vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un homme. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang en lui doit être répandu par l'homme. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Donc, on voit que Dieu redonne sa bénédiction à l'humanité. Au début de la Genèse, quand il fait l'homme, il donne un peu le même speech à Adam de se multiplier, d'être fécond. Là, après le déluge, il y a un nouveau recommencement où Dieu redit à Noé et à ses fils, soyez féconds. Puis là, on a encore des règles alimentaires où là, les fils de Noé peuvent manger de la viande, peuvent tuer des animaux, mais il ne faut pas qu'il y ait de sang dans la viande qui est mangée. Puis aussi, il ne faut pas qu'il y ait de meurtre entre Genèse 1 et Genèse 9, on voit qu'il y a Caïn qui a tué son frère Abel. On voit qu'il y a un des descendants de Caïn, Lémec. Je crois bien que lui, qu'il a tué un adulte dans sa colère. Non, un adulte dans sa blessure, puis un jeune enfant pour sa plaie. Donc, on voit qu'il y avait de plus en plus de morts. À l'époque du déluge, l'humanité s'était vouée au mal. Donc, Dieu là, met des règles supplémentaires. Au début, c'était juste de ne pas manger du fruit de l'arbre. La connaissance du bien du mal. Mais maintenant, c'est oui, vous pouvez tuer des animaux, mais ne mangez pas le sang. La deuxième règle, ben, vous n'avez pas le droit de vous en tuer. Si jamais vous commettez un meurtre, ben, on va redemander aux meurtriers sa propre vie. Ensuite, là, je vous rassure, on ne va pas regarder toutes les lois de l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup. On fait quelque chose d'exhaustif, on les regarde tous. Non, mais on va regarder quand même un passage qui est bien populaire. Alors, les 10 commandements, s'il y a des lois de Dieu qui sont bien connues, c'est bien les 10 commandements. Donc, on est en Exode, on est à la rencontre entre Dieu et les descendants d'Abraham, donc au Mont Sinaï. Dieu lui-même va venir rencontrer le peuple. Le Moïse va, en fait, Dieu va inscrire sur les tablettes les 10 commandements. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui m'aiment. Et j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom passé. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il se reposait. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans la vie que l'Éternel t'a donnée. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartient. Donc, les 10 commandements, c'est un préambule à une loi qu'on voit dans Job, dans l'Éthique, dans Deutéronome, où Dieu explique comment la société d'Israël qui va s'installer dans le pays de Canaan, comment cette société-là doit se comporter, de quelle manière on s'approche de Dieu, quel sacrifice on doit faire, différents types de sacrifices, quel type d'animal on peut sacrifier. C'est toute la vie de la société. Donc, comment est-ce qu'on pratique l'agriculture, quel animal on peut manger, qu'est-ce qui nous rend un peu, comment est-ce qu'on on a de l'entraide pour les pauvres et les moins favorisés. Donc, c'est vraiment des règles très donc complexes. On est loin du commandement unique d'Adam de ne pas manger d'un fruit, ou d'avoir les 2 commandements nommés de ne pas manger de la viande avec du sang, ou de ne pas tuer son prochain. On est rendu avec tout un système de lois. Et ça fait partie d'une alliance entre Israël et le peuple de Dieu. Donc, Israël a l'obligation d'écouter ces lois-là, de les mettre en pratique. On va passer à travers plusieurs caractéristiques de la loi de Dieu, qu'on voit dans les 5 premiers livres de la Bible. Premièrement, on voit que dans la loi de Dieu, il y a une autorité. Au début, dans la loi du Québec sur les abeilles, on voyait que l'autorité, c'était le ministre de l'agriculture, des pêcheries, et tout ça. Mais l'autorité dans la loi de Dieu, c'est Dieu. Puis, si ce n'est pas forcément Dieu qui agit pour mettre, pour faire exécuter sa loi, ben on voit qu'il y a des magistrats, il y a des dirigeants dans les villes qui doivent être attitrés pour faire respecter la justice. Puis on voit aussi dans la loi que s'il y a certaines situations où on ne sait juste pas qui a raison, par exemple, s'il y a un cadavre qui est trouvé près d'une ville, ben là, les dirigeants de la ville doivent contacter, mais il y a un certain processus pour s'assurer bon, que les responsables de la ville n'est pas responsable de ce meurtre-là. Ensuite, on voit dans la loi qu'il y a un jugement, il y a une conséquence à nos actes. Donc, comme on voyait, si on obéit à nos parents, ben là, on peut espérer jouir d'une longue vie. Par contre, si on commet des délits, si le délit est mineur, ben on peut payer une amende. si on fait un vol, ben, faut qu'on reste dessus avec une pénalité si on a volé. Pour les crimes plus graves, ben, la pénalité, c'est la mort. On voit que, comme un peu bien de justifier, qu'il y a une gravité qui est du jugement qui est différente. Comme je viens de l'expliquer, bon, Dieu, à la limite, que ma charge du mauvais chemin, c'est pas la mort automatiquement. Hein. Tout dépend, dans la loi, il y avait la place au jugement, place à la gravité selon le sens. Ensuite, on voit que Dieu lui-même est le standard établi par la loi. On voit que, au début de la loi, Dieu dit, c'est moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. On voit que Dieu ne veut pas qu'on ait des idoles, parce que Dieu est jaloux. On voit que Dieu ne veut pas qu'on travaille le jour du sabbat, parce que lui, il n'a pas travaillé le jour du sabbat. On voit qu'on ne devrait pas tuer un homme, parce que l'homme est l'image de Dieu, donc on ne devrait pas détruire l'image de Dieu. Donc, il y a une grande partie des lois qui est basée sur la personne de Dieu. Le focus de la loi, c'est la personne de Dieu. Si on agit, c'est parce, selon la loi, c'est parce qu'on veut agir selon la justice de Dieu, son amour, sa sainteté, son honneur. On voit ensuite que la loi est transmise émotivement par Dieu. Encore pour parler de la loi sur les abeilles, on voit que c'est très formel, c'est très froid. Par contre, dans la loi qui est transmise à Moïse, bon, il y a des règlements qui sont donnés plus froids, formels, mais il y a certains péchés ou situations qui sont vraiment décriés par Dieu. Hein. Il y a certains péchés que ce sont des abominations de Dieu, ce sont des infamies. Par rapport au meurtre des enfants, au sacrifice à Moloch, Dieu dit, si vous, vous ne condamnez pas les personnes qui font ça, moi, je vais m'en occuper personnellement. Donc, on voit que Dieu il transmet sa loi avec émotion. Dieu est impliqué dans ce devoir. On voit que le principe de la loi est plus important que les détails. Souvent, on a des énumérations, comme on voit dans le passage sur la convoitise. On ne peut pas convoiter la maison de notre voisin, la femme de notre voisin, le bœuf de notre voisin. Les énumérations ne sont pas faites pour être exclusives. Hein, pour, okay, tu peux pas convoiter la maison, la femme, puis le bœuf, le voisin, mais ah, tu pourrais convoiter sa voiture parce que c'est pas dans la liste. Non, non. Les exemples sont mis pour expliquer c'est quoi ce qu'on pourrait convoiter et qu'on peut pas convoiter. De la même manière, hein, faut pas chercher des failles dans la loi. Encore le verset sur la convoitise, ça dit qu'on n'a pas le droit de convoiter rien qui lui appartienne, rien qui appartienne à mon voisin. Ah ben là, si mon voisin loue une voiture, mais là, la voiture ne lui appartient pas, ça que je pourrais la convoiter. Ah non. C'est pas ça le sens de la loi, hein. Exactement, il ne faut pas chercher les coups. Le principe...
C'est vraiment fort dans la
présentation. Ah oui, donc, on se met à chercher des manières de... Vous n'avez pas respecté la loi de Dieu. Donc, tout ça pour dire que le principe de la loi est plus important que les détails spécifiques. Dans la loi, ça parle des bœufs et des ânes, mais là, si c'est une chèvre, peut-être que ça s'applique aussi. Ensuite, on voit que bon, tout le système de sacrifice qui est mis en place, c'est fait pour couvrir les péchés. Donc, chaque fois qu'on fait un péché, ben, il y a plusieurs conséquences. Souvent, la manière de couvrir le péché aux yeux de Dieu, ne pas être la colère de Dieu, ben, c'est par le sang d'un animal qui est sacrifié. Il y a tout un système. Bon, il y a un seul endroit où on peut faire des sacrifices, au tabernacle, c'est comme je disais, une grande tente. C'est pas n'importe qui peut faire des sacrifices, ce sont les descendants, un certain groupe de descendants de la tribu de Lévi, les sacrificateurs. Donc, il y a tout un processus, et c'est de cette manière-là que le peuple peut être en relation avec Dieu, malgré leur péché, c'est parce que les sacrifices couvrent leur péché. Question légitime qu'on peut poser, c'est pourquoi est-ce que je devrais prendre mon temps pour lire la loi? Après tout, on n'est pas des Israélites qui s'apprêtons à vivre en Canaan. On est au Québec au 20e siècle. On ne fait pas vraiment, en tout cas, peut-être dans la salle, il y a des gens qui font de l'agriculture. Moi, j'en fais pas. J'ai pas de bœuf, j'ai pas d'âne. Pourquoi est-ce qu'on devrait lire la loi? En fait, on n'est pas soumis à cette loi-là. Paul, dans les lettres de Romains de Galates, prend beaucoup de temps et d'énergie pour expliquer que maintenant, nous, on n'est pas dans l'ancienne alliance. On n'est pas dans une alliance qui est régie par la loi, qui est régie par les sacrifices continuels d'animaux. Maintenant, on est dans une nouvelle alliance. Une alliance plus excellente. Une alliance où le sacrifice unique de Jésus-Christ n'a pas seulement couvert les péchés, mais a permis le pardon des péchés. Donc, de lire la loi, pourquoi est-ce que le samedi après-midi, on devrait prendre le temps de lire sur le Christ, pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? La loi met en évidence notre incapacité de satisfaire les critères de Dieu. Je veux dire, pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi aux Israélites s'il savait qu'éventuellement Jésus devait venir, devait donner sa vie sur la croix? Pourquoi est-ce que toutes ces bœufs-là, ces moutons, ont été sacrifiés pour Dieu si éventuellement il y avait le sacrifice réel qui allait arriver? Il faut se rappeler dans quel contexte l'ancienne alliance a été faite. Comme je disais tantôt, sur terre, il y a eu un déluge. Dieu voyait toute la méchanceté auquel l'humanité se vouait. Il y a seulement Noé, sa femme, puis leurs trois garçons, puis les trois épouses et les garçons qui ont été sauvés de ce monde déchu-là. Puis, en fin de compte, on peut dire, une fois que Noé a été sauvé, qu'est-ce qui nous dit que 100 ans, 200 ans, 1000 ans après, ça n'aurait pas encore recommencé? On ne serait pas en rendant qu'une civilisation déchue, où on est constamment tourné vers le mal. Qu'est-ce qui dit que ça ne serait pas encore arrivé? Donc Dieu a mis en exécution un plan pour s'assurer qu'il n'y ait pas un deuxième déluge, qu'il n'y ait pas encore que l'humanité ne se tourne pas totalement dans le mal. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de créer un peuple différent, un peuple qui n'allait pas se comporter comme les autres, qui allait être saint, qui allait connaître Dieu intimement, qui allait l'imiter. Donc, il a pris un vieillard, Abraham, un vieillard sans descendance. Il a fait des promesses à ce vieillard-là. Il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles qui habiterait dans un pays, le pays d'Israël. Donc, Abraham, lui, a mis sa confiance en Dieu, il a eu foi dans la parole de Dieu. Et à cause de cette foi-là, ben là, Dieu a formé le peuple de Dieu, et tous les descendants d'Abraham, pour être son peuple. Puis, avec la loi, Dieu, on voit où on s'en est, il s'approche du peuple des Hébreux. Ils vont à leur rencontre pour montrer au peuple qui il est, à quel point il est saint, à quel point il est merveilleux, à quel point il est puissant. Et ce peuple-là, le peuple des Hébreux, allait pouvoir connaître Dieu, allait pouvoir vivre d'une manière différente. Il allait pouvoir être une lumière pour toute la terre. Tous les peuples allaient pouvoir connaître le Dieu d'Israël à cause du comportement d'Israël. Si vous lisez votre Ancien Testament, vous allez voir que s'il y a une chose qui est mise en évidence, c'est l'incapacité d'Israël à suivre Dieu, à se conformer à la loi de Dieu qui a été transmise au Mont Sinaï. Même si Dieu y envoie une multitude de prophètes, même si Dieu y envoie des souffrances, il envoie des guerres, des famines, non. Même s'il y a une certaine repentance, au long terme, le peuple d'Israël se détourne de Dieu. La semaine passée, on voyait les lamentations de Jérémie où la ville de Jérusalem a été détruite, le peuple a été envoyé à Babylone en déportation. C'est clair dans l'Ancien Testament qu'il y a une incapacité de suivre la loi. C'est pas une incapacité parce que la loi est trop compliquée, est trop difficile, non? C'est une loi qui reflète le caractère de Dieu, c'est notre incapacité à vient de nous. C'est parce que nous, on est pécheurs, on est semblable à notre ancêtre Adam qui a décidé de désobéir à Dieu. Une fois qu'on est convaincu de notre propre incapacité à satisfaire les critères de Dieu, ben là, on est prêt à accepter un sauveur. Hein? Si, dans notre vie, on est très satisfait de notre vie, si on dit, moi, tout va bien, je suis quelqu'un qui vit de manière pure, je suis juste dans mes relations avec les gens, je suis bon, je suis généreux, on n'a pas besoin d'un sauveur si on pense comme ça. Si c'est ça notre propre appréciation de notre justice, de notre sainteté, quand Jésus vient, puis Jésus dit, hé, hey, tu as juste besoin de mettre ta foi en moi, je n'ai pas besoin de mettre ma foi en Jésus. Je peux mettre ma foi en moi. Je suis assez bon, je suis assez saint, je suis assez juste. Je me considère moi-même. Je me considère assez saint pour être dans la présence de Dieu. Mais si je lis la loi de Dieu, si je vois toutes les exigences qu'il y a, si je la compare à ma propre vie, à mon propre manque d'amour, mon propre manque de sainteté, de pureté, ben là, je me rends compte que oui, j'en ai besoin d'un sauveur. Donc, à partir des Hébreux, Dieu a fait toute une pédagogie pour montrer que oui, on a besoin d'un sauveur, ce sauveur-là, c'est Jésus. Et lui, il va satisfaire parfaitement les exigences de la loi. Il va donner sa vie pour nous, pour être un sacrifice parfait pour enlever nos péchés. On devrait lire la loi parce qu'on veut ressembler à lui. Nous tous qui avons mis notre confiance en Jésus, on veut ressembler à Jésus. Quand Jésus il appelait des disciples dans le Nouveau Testament, il dit « Toi, suis-moi ». Ça, c'est aussi notre appel de suivre Jésus, de l'accompagner, de lui ressembler, de marcher comme il marche. Tantôt, je disais qu'on a une incapacité humaine à obéir à Dieu, mais maintenant, on a une aide. On a le Saint-Esprit qui vient dans notre cœur, qui vient nous transformer. On ne devrait pas lire la loi de l'Ancien Testament en essayant de vivre comme un Israélite de l'Antiquité. On devrait lire la loi en essayant d'apercevoir le cœur de Dieu et en étant transformé. Il faudrait lire la loi en étant disposé à ce que notre cœur soit transformé à l'image de Dieu. Je vais vous donner deux exemples de l'application de ce principe. En Deutéronome 22:8, on lit « Si tu construis une nouvelle maison, tu installeras une balustrade autour de ton toit en terrasse, pour que tu ne sois pas responsable de la mort de quelqu'un qui tomberait du toit. » Hein? Tantôt dans les 10 commandements, on avait beaucoup d'interdictions. Hein? Tu ne voleras pas, tu ne mangeras pas. Là, on est vraiment une step plus loin. On n'est pas dans l'interdiction de faire le mal. On est dans une obligation de prendre soin des gens qui sont autour de nous. On ne devrait pas, quand on construit une maison, bon, dans l'Antiquité, eux autres ne savaient pas 8 pieds de neige l'hiver, donc ils n'avaient pas des toits en panne, ils avaient des toits plats. Donc, comme leur toit était plat, ben, ils pouvaient monter sur leur toit, ils pouvaient dormir, manger. C'est une pièce supplémentaire. On a un envoyé qui est sur le toit. Si on est sur le toit et qu'on tombe en bas, ben, peut-être qu'on va avoir des gros bobos. Donc, ce que ça dit en gros, c'est si tu construis une maison, mets-toi une balustrade pour empêcher que les gens tombent sur ta maison, que tu sois toi-même responsable de ce qui est arrivé. Parce que c'est ta maison, c'est toi qui l'as construit. Quand tu reçois des gens chez vous, tu devrais t'assurer qu'ils sont en sécurité. Donc, comme je disais tantôt, c'est ça aussi des choses qu'on voit de nos jours, hein, qu'on a une responsabilité civile sur ce qui se passe dans notre maison. Donc, on devrait ne pas être négligent. Que ce soit au travail, que ce soit sur la route, que ce soit quand on construit une maison, on devrait s'assurer que les gens qui vont être en contact avec nous soient en sécurité, de ne pas mettre les gens en danger par leur comportement. Un autre exemple, on va voir un passage dans Deutéronome et un passage dans Exode. Les deux sont similaires. Si tu vois errer à l'aventure le bœuf de ton compatriote ou son mouton, le tablier ne t'intéresse pas. Au contraire, tu ne manqueras pas de le ramener à son propriétaire. Si celui-ci habite trop loin de toi, ou si tu ne sais qui est le propriétaire, tu prendras l'animal chez toi et tu le garderas dans ta maison jusqu'à ce que son propriétaire vienne le réclamer. Et alors, tu le lui rendras. Tu agiras de même si tu trouves son âme, son manteau ou tout autre objet que ton compatriote aura perdu et que tu trouveras. Tu n'as pas le droit de t'en désintéresser. J'aime particulièrement la fin du passage, on te le dit, tu n'as pas le droit de t'en désintéresser. Un passage similaire. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de le lui ramener. Lorsque tu verras l'âme de celui qui te déteste succomber sous sa charge et que tu n'auras pas envie d'aider cet homme, aide-le quand même à délaisser son âme. Donc, l'entraide, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Pas quand on file pour faire ça, c'est pas parce qu'on dans les fois où on veut se sentir bien, on veut se sentir une bonne personne. Non, l'entraide est une obligation. On n'a pas le droit de se désintéresser du malheur des autres. Et on a encore moins le droit de se désintéresser d'eux quand c'est nos ennemis. Quand c'est quelqu'un qui t'a fait du tort dans le passé, quand c'est quelqu'un qui parle dans ton dos, quand tu le vois dans le trouble, tu as l'obligation d'aller l'aider. Donc, encore là, on est loin de la simple interdiction de ne pas faire le mal. La loi, c'est pas juste. Dieu ne fait pas juste ne pas faire le mal, Dieu fait le bien. Et nous, on a la même obligation de ne pas juste faire le mal, de ne pas juste rester dans notre sol, à ne pas voir personne. Okay, dans mon sous-sol, je ne bouge pas, je ne fais pas rien, je ne fais pas le mal. Non, on a l'obligation d'être sensible aux besoins des autres, de prendre soin d'eux. Dieu nous a aimés alors que nous, on était ses ennemis. On a la même obligation de nous aimer nos ennemis. On va terminer avec un chant, l'amour de Dieu. C'est là, on va vous partir.
L'amour de Dieu.